CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at ciut.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Employeurs, employés, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche? Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche en direct à l'antenne.
Du 13 au 19 novembre, nous comptons sur votre contribution, sur votre adhésion à la seule, l'unique émission en langue française à la radio de l'Université de Toronto. CIUT 89,5 FM, Potpourri Show, 30 ans déjà. Une émission qui vous fait voyager dans la francophonie d'ici et d'ailleurs, les 5 continents. Potpourri Show, c'est plus de 3000 invités, 40 partenaires clés, 20 collaborateurs réguliers, plus de 200 bénévoles, des émissions sans frontières et en toute liberté. Tout au long de la semaine, soyez des nôtres et gagnez des prix grâce à nos partenaires. Nous attendons votre message, vos commentaires, votre contribution à potpourri@cut.fm ou encore téléphonez-nous immédiatement au 416 946 7000. Du 30 au 19 novembre, le son de votre ville, the sound of your city. Aidez-nous à garder l'antenne. 416 946 7000. Nous comptons sur vous. Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Oui, c'est Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Héron.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère
nous, les franco-ontariens, on a le droit de se faire servir en français.
Mais personne ne le sait.
Même pas les franco-ontariens.
On est protégé par la loi 8.
En fait, on dit maintenant la loi sur les services en français.
Ah oui, c'est plus court.
Ça peut être compliqué à comprendre, donc Improtéine vous l'explique. La loi sur les services en français permet aux Ontariens de se faire servir en français par leur gouvernement provincial.
On a accès à toute l'information en français de tous les niveaux. ministères ou organismes gouvernementaux en ligne ou par téléphone.
En personne aussi? Yes!
Yeah, non. Juste dans les régions désignées.
Oh. Bon, c'est quoi une région désignée?
Une zone où les francophones représentent au moins 10 % de la population.
C'est chien pour Toronto?
Non, parce qu'une ville qui compte au moins 5 000 résidents francophones est aussi considérée région désignée.
Puis il y a plus que 5 000 francois à Toronto?
Oui!
Yes!
J'avoue, j'en ai bavé, pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
On t'y goûte miel, on t'y goûte fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Alors, bonjour.
Tant que la terre sera ronde.
Ici,
tour du monde,
là-bas,
voir d'autres êtres humains,
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI,
RFI,
on en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Et oui, salutations à tous nos amis haïtiens qui nous écoutent en ce moment dans la région de Hamilton, en Ontario. Et oui, Toronto bien sûr, la grande ville, la grande capitale des affaires du Canada. Montréal, Ottawa, salutations aussi aux festivaliers du Festival de films à Carthage en Tunisie. Et aussi les auditeurs qui nous écoutent dans la nuit à Sydney en Australie et les membres du MOFIF dans la région de Toronto. Et aussi un bonjour spécial à tous les employés qui sont zéro positifs dans ce premier restaurant, une première au Canada, ouverture du premier restaurant où tous les employés sont zéro positifs à Toronto. On en parle. Et oui, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire, le magazine de la francophonie qui vous mène dans la diversité du monde. Potpourri Show, 30 ans déjà, francophonie sans frontières, de 11h à 13h, en direct si vous nous synthonisez chez vous, en voiture, www.cut.fm, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, bonjour, welcome on board, assisté aujourd'hui de Jenny Lee et Xavier, bonjour, welcome, conception et animation, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h. Et parmi nos invités aujourd'hui, Amiclé Fontaine, président et directeur général de la Fondation Sylvanie Lindor et leader communautaire, qui n'est pas très très content. Et bonjour monsieur. Édouard Landry, auteur, compositeur, interprète franco-ontarien qui est dans sa voiture quelque part dans le nord de l'Ontario. Bonne chance. Et l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien, je vous rappelle, il fera le lancement de son album, troisième album. Monsieur Julien Clerc, qui ne connaît pas cet artiste de renom, artiste français, et 50 ans de carrière. Et Pierre Gauthier, sergent au sein du régiment de la Chaudière, le fameux DJ Petit Biscuit, jeune artiste français, qui était de passage à Toronto. Bonjour tout le monde.
Et en ce dimanche 12 novembre 2017, où que vous soyez, on vous souhaite un accueil chaleureux à notre émission, notre magazine. J'espère que vous serez membre de notre émission cette semaine et dimanche prochain. C'est notre campagne d'adhésion. Vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission. Nous attendons votre appel 86 946 7000. Les clips de la semaine qui ont marqué ma semaine, personnellement, c'est l'accueil très chaleureux du premier ministre canadien Justin Trudeau par des étudiants à l'université de Don Duc Tan à Ho Chi Minh au Vietnam. Justin Trudeau est la rockstar, madame, monsieur, du peuple vietnamien, mais aussi des Philippines. Il est là ces jours-ci, en ce moment même. Tandis que monsieur Donald Trump, qui est celui-là, qui s'est fait huer par des manifestants à Manila. Et oui, une artiste très reconnue au Vietnam qui a osé insulter Donald Trump pour sa position face aux femmes a été arrêtée hier soir. Le Premier ministre Justin Trudeau a eu des entretiens bilatéraux avec la conseillère d'État du Myanmar, Aung San Suu Kyi, avant l'ouverture du Forum des pays faisant partie de la coopération économique de l'Asie-Pacifique, plus communément appelée l'APEC. Regard sur la présence de la langue française au Vietnam, justement notre jeu concours en ce dimanche, selon vous, est-ce que le Vietnam est un membre actif de la francophonie ? Je répète la question, vous allez répondre, vous aussi de l'autre côté. Est-ce que le Vietnam est un membre actif, pays, membre de la francophonie ? Est-ce que vous connaissez la réponse ? Jennifer ? Non. Alors, allez chercher sur le web ou je ne sais pas. Vous me donnez la réponse avant la fin de l'émission. Et oui, nous attendons votre réponse, madame, monsieur, à popori@cut.fm ou encore 86 946 7000. Parmi nos invités, comme je l'ai rappelé au début de l'émission, l'artiste franco-ontarien de Sudbury, Edouard Landry, lance son tout nouvel et troisième album, L'Escalade. À travers cet album, il livre une magnifique analogie qui nous guide tout au long des chansons de cet album concept. Et je vous rappelle qu'il sera en tournée un peu partout à travers la province, y compris à Toronto. On en parle avec lui vers 12h30. Du journal L'Express de Toronto, parmi la 25e, pour la 25e année du Salon du Livre de Toronto, le défi reste le même. Incroyable, hein, attirer un public plus large d'adultes, c'est tout un défi. Alors que l'événement a toujours autant de succès chez les jeunes, les élèves, les étudiants des écoles françaises et l'immersion, Valérie Vlad, président du Salon, a reposé la question lors de l'Assemblée générale annuelle tenue le 30 octobre dernier. Quoi faire ? Que faire ? À qui la faute ? Est-ce le numérique ou le manque d'idées novatrices ? Petite question. Invitation aux cinéphiles jusqu'au 24 novembre prochain. Vous pourrez découvrir gratuitement 28 longs métrages provenant de 28 pays européens au Cinéma Royal de Toronto, rue Collège, pas loin de la rue Bathurst, et Collège de l'Amsterdam du 19e siècle à la campagne estonienne, en passant par un laboratoire d'ADN au Portugal et les Sami de Finlande. Allez-y pour un voyage gratuit, en rire et pleurs, et en toute détente. RFI Culture nous présente un des auteurs-compositeurs français très connus dans le monde de la francophonie, Julien Clerc. Il fête ses 50 ans de carrière, de son enfance dans le 9e arrondissement à Paris, baignant dans les notes avec la semaine chez son père Paul, haut fonctionnaire à l'UNESCO, et le week-end chez sa mère d'origine de la Guadeloupe. Et oui, celui qui s'appellera Julien en public apprend très tôt le piano. Grâce à RFI, nous aurons un entretien en exclusivité après le journal de RFI. Session découverte dans la rue, c'est un jeune comme les autres, Petit Biscuit de son vrai nom, Mehdi Benjelloun. Mission réussie pour ce jeune homme français, jeune DJ français. Plus de 220 millions d'écoutes cumulées rien que sur Spotify avec son tube Sunset Lover. Du haut de ses 17 ans, Petit Biscuit est en train de s'imposer dans le monde de l'électro. Il était à Toronto cette semaine. Où va le pays de l'oncle Sam ? Eh oui, un an après l'élection de Donald Trump, retour sur cette année tumultueuse avec des intellectuels français, une année marquée notamment par la Women's March, les émeutes de Charlottesville et la crise nucléaire avec la Corée du Nord. Collaboration spéciale France Culture, Paris. Rien ne va plus en Haïti. Nous venons d'apprendre que plusieurs médias rapportent ce matin des fraudes au sein du gouvernement haïtien, mais nous n'avons pas pu vérifier cette information pour le moment. Les femmes francophones du mouvement ontarien de MOFIF, ces mouvements ontariens des femmes immigrantes francophones, sont heureuses de vous inviter à participer à leur assemblée générale annuelle le samedi 25 novembre de 11h à 12h30 au collège Boréal. Et cela vous intéresse, allez sur le site de MOFIF pour tout savoir, on en parle, et avec les indicatifs vers la fin de l'émission. Et puis quoi d'autre? Polémique à l'Université d'Ottawa, maladresse, oppression, manque de tact. Les réactions des franco-ontariens ont fusé sur les médias sociaux à partir du mercredi 8 novembre, en soirée après la mise en ligne d'une publication d'un groupe d'étudiants sur Facebook. La délégation de l'Université d'Ottawa pour les Jeux de la communication avait lancé une invitation événementielle pour le 17 novembre intitulée « Pleurons l'absence du pays, mais célébrons la fête de Claudel ». Le groupe choisissait cette fois Gatineau au lieu d'Ottawa comme lieu de rencontre, sans spécifier l'endroit exact, sauf que le groupe de plus de 1000 suiveurs sur Facebook a usé d'un humour particulier pour son message. Pas besoin de ton passeport, pas besoin d'aller faire changer ton argent québécois en argent ontarien et surtout pas besoin de traverser la frontière ontarienne. Après la 21e édition de jeu, Ottawa a enfin compris que vous ne voulez rien savoir d'être franco-ontarien. L'invitation pré-jeu Ottawa comportait aussi un drapeau franco-ontarien barré d'une croix rouge. Pour certains, comme l'activiste franco-ontarien Mathieu Fortin ou encore Patrick Farran, la blague était manifestement de trop. Les jeux où les deux compères ont immédiatement partagé la publication mercredi soir sur Facebook en guise d'indignation et devant le tollé suscité, la délégation a changé son fusil d'épaule. Et oui, en attendant, la délégation a publié un communiqué d'excuses jeudi en fin de matinée. En aucun cas, notre intention fut de porter atteinte aux droits et à l'intégrité des franco-ontariens et nous admettons avoir manqué de jugement dans notre humour qui, nous le concevons, fut très discutable dans ce cas-ci. Nous avons fait preuve de grande maladresse avec notre événement Facebook, qui a d'ailleurs été supprimé depuis. Et oui, 22e jeu de la communication qui rassemble 8 universités de l'Est du Canada du 7 au 11 mars prochain. À Québec, la leçon de cette histoire, comme l'histoire nous démontre, certains Québécois continuent à rabaisser avec grand plaisir les franco-ontariens. Ça, on le voit de plus en plus. Dossier immigration, c'est silence radio de la part du gouvernement ontarien sur la question des migrants haïtiens menacés d'expulsion par le gouvernement américain. C'est l'indifférence totale des différents paliers de gouvernement. Le leader communautaire haïtien Amic Les Fontaines rappelle que 60 000 citoyens originaires d'Haïti pourraient être expulsés des États-Unis dès janvier prochain. Leur pays d'origine ne peut les recevoir en raison de l'instabilité socio-économique et politique. La province ne devrait-elle pas leur tendre la main afin de se rapprocher de sa cible en immigration francophone? C'est la question que je me pose. On en parle avec Amic Les Fontaines vers 11h35. Pendant ce temps, le gratin de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, la FAO, était à Timmins cette semaine, une ville au nord de l'Ontario, à 689 km de Toronto. Il fait très froid dans ce coin du pays. C'est là que certains veulent caser les nouveaux immigrants francophones. Et oui, on peut se poser beaucoup de questions. Et il y a de quoi à être sceptique, madame, monsieur. Je vous rappelle, cette réunion à Timmins est en marche de l'édition 2017 du Forum provincial sur l'immigration francophone. Très bel article de Radio-Canada cette fin de semaine sur la question suivante. Les universités francophones ont-elles un rôle à jouer dans la rétention des immigrants francophones? Cette question a été grandement discutée lors du Forum provincial sur l'immigration francophone à Timmins et plusieurs organismes étaient sur place pour discuter des défis et des façons d'augmenter le nombre d'immigrants francophones dans la province. Luc Bussière, recteur de l'université de Hearst, a pris part à la discussion et a avancé les points majeurs. Selon lui, la répartition des immigrants sur le vaste territoire ontarien. Et sa question, c'est comment on fait pour mieux répartir ces immigrants sur le territoire lorsque partout il y a un enjeu démographique, pas seulement dans le Nord, dit-il. Une des réponses, selon lui, est l'établissement de davantage de services d'accueil pour les nouveaux arrivants francophones. Et oui, il précise toutefois qu'il y a aussi du travail à faire du côté de ces populations qui s'installent dans une nouvelle région. Et il y a un travail qui revient aux immigrants, soit un effort pour qu'ils s'intègrent dans notre nouveau pays, dans leur nouveau pays. On doit aussi déployer des efforts pour être plus inclusif. Comment on fait pour les aider à s'établir en Ontario? En fait, 40% de la clientèle de l'université de Hearst est d'origine africaine. Question à M. Bussière, si vous êtes à l'écoute, avec tout mon respect, M. Bussière, professeur. Cela fait belle lurette, comme vous le savez, que tant d'immigrants francophones qualifiés s'installent au Canada, y compris en Ontario, et selon nos observations depuis 35 ans, ces francophones font face à des obstacles systémiques et n'arrivent pas à percer dans le milieu francophone en Ontario. Tant que les franco-ontariens de souche n'ouvrent pas leurs portes d'une façon équitable, respectable aussi aux nouveaux immigrants francophones, alors ces immigrants iront ailleurs. Il est grand temps que les franco-ontariens de souche fassent leur mea culpa et acceptent les déboires des politiques du passé en matière d'immigration. Et oui, il ne suffit pas de les accueillir pour avoir une bonne conscience ou remplir son devoir de missionnaire. Il faut ouvrir vos portes et enrayer toute forme de discrimination ou d'obstacle pour mieux faciliter l'épanouissement des immigrants en Ontario. Et selon moi, le Canada, la francophonie hors Québec sont condamnés à accepter les immigrants. Et aussi, il y a quelqu'un qui l'a dit à cette antenne, on est condamné à se métisser si on veut survivre. C'est une question de survie. Et oui, jour du souvenir, édition 2017 à travers le pays, les cérémonies ont accordé une attention particulière cette année à des batailles importantes des Première et Deuxième Guerres mondiales, dont celle de Passchendaele, qui s'est terminée il y a exactement 100 ans, le 10 novembre 1917. Le 11 novembre 1918, à 11h, la Première Guerre mondiale prenait fin. Elle dura plus de 4 ans, tua ou blessa plus de 30 millions de militaires et anéantit certains des plus grands empires du monde. Elle changea à jamais l'avenir des peuples, des pays et des continents. La contribution du Canada fut considérable, sans précédent et coûteuse. Le pays émergea de la guerre, fier et victorieux, cheminant vers l'autonomie nationale au sein du Commonwealth britannique tout en pleurant quelques 250 000 Canadiens tués ou blessés. Au cours du mois de novembre, nous vous invitons à vous joindre à nous pour souvenir. Voici le témoignage de Pierre Gauthier, sergent au sein du régiment de la Chaudière qui a débarqué en France au moment du jour J. Et a participé à la libération de la France, à la Belgique et la Hollande.
Mon nom est Pierre Gauthier. Je demeure à Chambly. Je suis un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, je me suis enrôlé dans l'armée canadienne à 17 ans. J'ai fait mon entraînement au Canada, mon entraînement de base au Canada, avant d'être envoyé en Angleterre. En Angleterre, j'ai servi environ 2 ans pour finir mon entraînement d'infanterie avant d'aller au débarquement en Normandie. J'ai servi avec le régiment de langue française, le régiment de la Chaudière, qui est originaire de la Beauce, ici au Québec. Et puis, j'ai fait le débarquement le 6 juin 44 avec le régiment de la Chaudière. J'ai servi pour la libération de la France, la Belgique et la Hollande. J'ai été blessé 2 fois durant la guerre, 1 fois légèrement en France, dont j'ai été capable de recouvrir. Et puis finalement, j'ai été blessé sérieusement en Hollande La journée du 11 novembre, c'est une journée très importante pour moi, puisque ça me rappelle les choses qui m'ont arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve ça une journée beaucoup plus importante que la journée de Jean-Baptiste, puis Noël, puis toutes ces autres journées-là. Le 11 novembre, je trouve ça une journée la plus importante, surtout quand on pose des couronnes et puis qu'on rencontre des gens qui ont servi avec moi durant la guerre. Et mon message pour les étudiants, c'est que honorer les vétérans et puis donner leur tout le respect nécessaire, parce que les vétérans ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur courage pour servir le Canada. C'est très important que les vétérans, et sont souvent oubliés au Canada maintenant, puisque ça fait plus que 70 ans que les vétérans ont servi durant la Deuxième Guerre. Et puis, il ne faudra jamais oublier qu'est-ce que les vétérans ont fait pour leur donner les privilèges qu'ils ont aujourd'hui et puis les libertés qu'on a au Canada.
Visitez leprojetmémoire.com pour écouter des témoignages de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée et des missions de maintien de la paix.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeur dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suit la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure. et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Et justement, ONFR traite le dossier immigration. C'est silence radio de la part du gouvernement ontarien sur la question des migrants haïtiens menacés d'expulsion par le gouvernement américain. On en parle dans quelques minutes.
CIUT is celebrating its 30th anniversary, and we need your help. Can you help us reach our $65,000 goal? Find out more about the Sound of Your City Fall Membership Drive and donate at www.ciut.fm. Thank you for your financial support.
The Sound of Your City, CIUT 89.5 FM, celebrating 30 years on the FM dial.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Real Sound Production présente la compilation la plus glamour de l'année. Viens zouker volume 5. Mixé par DJ Wilson. 19 tubes des années 80 90 enchaînés plus 3 inédits. Darius Denon. Et le tube de ses vacances, Jean-Marie Ragal. La compilation Viens Zouker volume 5 by DJ Wilson. Déjà dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
What's up, King Cassie? You know who's the best?
Comment
Mais ça du peuple a chargé mais toi nécessité yo sécurité santé à tous manger nous c'est un peuple qui parle bien sans souhait c'est nous planter c'est nous pour école tête calée côte respect nous y soufflé besoin plus de moi dans ce pays non pour vivre la vie moi pour prendre plaisir moi.
Et oui, cette semaine, à moins de 80 jours de l'échéance de la prolongation de 6 mois du Temporary Protected Status, TPS, pour Haïti, fixé au 28 janvier 2018, le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a informé Elaine Duke, la chef par intérim du département de la sécurité intérieure des États-Unis, que les conditions économiques et sécuritaires en Haïti ne nécessitent plus que les quelques 60 000 migrants haïtiens restent sur le sol américain. Rien de très encourageant pour les nombreux Haïtiens vivant aux États-Unis sous le statut du TPS, même s'il reste encore un peu d'espoir, grâce à la multiplication des pressions politiques et diplomatiques. Toutefois, il faut craindre sérieusement l'absence d'empathie du président Trump pour la cause des migrants haïtiens, quelles que soient leurs origines. Hein, on a vu ça avec les gens du Panama. Une lettre rédigée par le leader communautaire haïtien Ami Clayfontaine a été envoyée au gouvernement canadien et ontarien, et c'est le silence radio le plus total. Notre invité dénonce le silence complet des autorités ontariennes sur le sort futur de ces milliers d'Haïtiens qui souhaiteraient venir s'établir légalement au Canada. Alors, pourquoi ce silence? Et surtout, que le gratin de la francophonie ontarienne crie haut et fort à Timmins, partout en Ontario, sur tous les toits, que le gouvernement ontarien a besoin d'ouvrir ses portes aux nouveaux immigrants pour atteindre son objectif fixé de 5%. Comprenez-vous quelque chose dans toute cette histoire? Comprenez-vous quelque chose? Oui, pour avoir le cœur net, nous allons parler avec notre premier invité de ce dimanche, Ami Clayfontaine, président et directeur exécutif de la Fondation Sylvanie Lindor à Toronto. Bonjour, Ami Clay.
Bonjour, M. Cazé. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Pompouri.
Oui.
Nous saluons également toute la communauté haïtienne de Toronto, celle d'Hamilton, et puis tous les francophones en général du Grand Toronto, nous les saluons.
Oui. Ça fait plaisir, et on a suivi un peu votre parcours depuis quelque temps. On a eu, nous, on parle de la situation des Haïtiens. On dirait que, malheureusement, le malheur continue à infliger ce peuple depuis des siècles. Nous, ici, on a pris conscience en 2010 lors de ce tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes. On en a parlé après aussi pour le redressement de ce pays, parce qu'on sait qu'il y a encore des gens qui vivent dans des tentes en Haïti. C'est incroyable. Et puis, il y a eu cyclone, ouragan par-dessus ouragan. Et là, on est pris avec une nouvelle histoire. Et j'ai devant moi la lettre que vous avez envoyée au ministre de la Citoyenneté, Réfugiés et Immigration du Canada, l'honorable Ahmed Hussein. Avez-vous reçu une réponse de sa part?
Mais en fait, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une réponse de M. Hussein. Et nous avons également écrit à la ministre des Actions civiques et de l'immigration de l'Ontario, Mme Laura Albanese. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un suivi de ce qui va se passer. En fait, cette lettre, je dirais, c'est un rappel. C'est une alerte de ce qui a été fait avant. Mm. Parce qu'on avait rencontré, on a été à Ottawa pour rencontrer le haut commissariat des responsables des Nations Unies pour les réfugiés, M. Jean-Nicolas Beuys. Donc, on l'a rencontré, on lui a alerté de la situation. Donc, un peu de temps après, on a eu une rencontre avec un conseiller municipal de la ville de Toronto, c'est M. Jim Caridianis. Donc, un peu de temps après cette rencontre, on a rencontré les trois branches du gouvernement. Un représentant de l'immigration fédérale, une représentante de l'immigration provinciale et plusieurs autorités de la ville de Toronto. Mm. Donc, on a parlé de la situation. On leur a dit vraiment, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer. Il y a environ 60 000 Haïtiens aux États-Unis à qui on ne renouvellera pas leur statut temporaire. Donc, ces personnes aimeraient venir au Canada de façon légale. Donc, est-ce que le Canada pourrait les accueillir? Parce que voit qu'il y a un accord entre le Canada et les États-Unis, ça, qu'on appelle l'accord entre les pays tiers. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui arrive aux États-Unis comme un pays sécurisé pourrait présenter une demande d'asile. Donc, c'est le cas pour ces milliers d'Haïtiens qui sont arrivés aux États-Unis après le tremblement de terre en 2010. Donc, on leur a octroyé un statut temporaire, donc n'ont pas présenté une demande d'asile. Mais... Et maintenant, ces personnes ont travaillé là-bas pendant 7 ans, pendant 10 ans et même plus. Donc, maintenant, avec l'arrivée de M. Trump, on ne veut plus renouveler ça. Donc, ces personnes sont dans l'inquiétude totale.
Quelle est la raison principale pour que le gouvernement, l'administration Trump refuse de renouveler cette entente?
En fait, vous savez qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les immigrants aux États-Unis vivent dans l'inquiétude totale. Peut-être qu'on dit qu'Haïti est stable pour l'instant, il y a un gouvernement, donc les Haïtiens peuvent retourner dans leur pays d'origine. Donc, il faut rappeler que dans la société haïtienne, donc, quelqu'un qui a laissé Haïti, quelqu'un qui est retourné en Haïti comme un déporté, donc, cette personne aurait à rencontrer toutes sortes de difficultés pour réintégrer dans la société haïtienne. Parce qu'un refugié, un déporté, c'est un marginalisé. Mmh. On pourrait avoir toutes sortes de questionnements pour cette personne. Donc, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis pendant 7 ans, pendant 8 ans. Donc, retournons en Haïti. Donc, cette personne aurait toutes sortes de problèmes à faire face aux problèmes actuels d'Haïti.
On sait que ce gouvernement, pour eux, immigration, enfin une partie de la population américaine, et je pense que Trump en fait sa campagne là-dessus, campagne de peur, les immigrants illégaux égales à terroristes ou encore des criminels, n'est-ce pas? Alors, je sais aussi, avec tout le respect que je dois à mes amis haïtiens, la communauté haïtienne, j'ai des amis en Floride, à Miami, à New York, qui ont voté pour M. Trump. Et est-ce qu'ils étaient au courant, justement, du danger que Trump allait poser pour la communauté haïtienne et surtout les immigrants qui sont à base temporaire aux États-Unis?
Maintenant, ils sont en train de voir le revers de la médaille, mais durant... les débats présidentiels, Trump avait pris une position assez claire pour Haïti. Il a parlé par exemple des méfaits des familles Clinton avec l'aide qu'ils avaient reçue pour le tremblement de terre. Mmh. Donc les Haïtiens pensaient que M. Trump était de leur côté, donc il était même invité à aller à Miami pour rencontrer les différents leaders de la communauté haïtienne. Bon, maintenant, c'est le revers de la médaille. On voit totalement un différent Trump qui fait la chasse aux sorcières. Donc, comme vous parlez d'immigrants illégaux, c'est ce qu'on utilise couramment en Occident. Donc, les Haïtiens qui sont aux États-Unis, qui sont menacés d'être expulsés vers Haïti, ce ne sont pas des immigrants illégaux. Ces personnes sont arrivées aux États-Unis avec un visa. Donc, à cette époque, puis le gouvernement fournissait un statut temporaire à cause du tremblement de terre. Donc, ces personnes avaient le droit de travailler, d'étudier et même voyager avec le TPS, comme on l'appelle. Donc, c'est l'administration Trump qui a décidé de ne pas renouveler ces statuts, donc qui met ces personnes dans l'inquiétude totale. Mmh. Donc, maintenant, ces personnes aimeraient venir en Ontario, aimeraient venir au Canada. Donc, ne savaient pas comment venir. Donc, on avait enregistré, c'était au début de l'automne dernier, en août et en juillet. Donc, il y avait une vague d'immigrants venant des États-Unis qui se sont immigrés, surtout au Québec, de façon irrégulière, je dirais. Donc, ces personnes étaient pour la plupart victimes, mais de fausses informations dans la plupart des médias sociaux aux États-Unis, dans différentes communautés haïtiennes. Donc, on dit que le gouvernement Trudeau a ouvert la porte, on a mis des immeubles disponibles pour ces personnes, on va donner ça. Donc, ces personnes ont tout laissé pour venir s'installer au Canada, mais une fois arrivées au Canada, donc, ce n'était pas le cas. Donc, le gouvernement était bien obligé d'envoyer des missions spéciales aux États-Unis pour contrecarrer cette fausse information. Donc, il y a le député Emmanuel Dubois qui est d'origine haïtienne. Lui, il a été à Miami pour parler de ça. Et puis, c'est ça qu'il avait fait. Donc, maintenant, ce n'est pas le cas. Bon, ces personnes, on est à 60 jours de méthodes, et puis ces personnes qu'on va les refouler en Haïti, ou pas parce qu'on ne veut pas renouveler ce statut. Maintenant, on a approché, on a rappelé au gouvernement ontarien s'ils peuvent faire quelque chose. Mais c'est ça l'idée. Donc, on a écrit à Mme Albanese, on a écrit à M. Houston, et jusqu'à présent, on n'a pas encore de réponse.
Incroyable. Je rappelle, Mme, Monsieur, que je parle en ce moment avec Amic Lefontaine, président et directeur exécutif de la Fondation Sylvanie Lindor, qui a envoyé des lettres au gouvernement canadien et ontarien, et c'est silence radio le plus total. Je sens, Monsieur Fontaine, que vous êtes un petit peu isolé. Est-ce qu'il y a moyen de créer une coalition avec d'autres associations qui militent pour les droits des réfugiés et des immigrants, que ce soit anglophones, francophones ou autres, à travers le pays? Et aussi, est-ce que vous avez contacté ces fameuses personnes de l'AFO, l'Assemblée de la Francophonie, qui sont en tournée en ce moment en Ontario, pour faire pression que le gouvernement ontarien et du Canada ouvre grande ouverte les portes du pays afin d'accueillir plus d'immigrants francophones afin d'atteindre l'objectif des 5%. Est-ce que vous avez contacté M. Carole Gelin?
Mais en fait, oui, M. Carole Gelin a été contacté. Une copie de cette lettre a été aussi envoyée à l'Assemblée de la Francophonie ontarienne.
Est-ce que vous avez reçu une réponse?
Oui, on a eu une réponse, mais on n'a pas. Ils n'ont pas encore travaillé. Ils ont confirmé qu'ils ont reçu la lettre et puis ils vont travailler là-dessus, mais on n'a pas encore une réponse de ce qui va se passer.
Incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez confiance que l'establishment francophone vous appuie dans votre démarche?
Non, en fait, vous savez, quand même, chaque fois, c'est une nouvelle bataille. C'est quand même une nouvelle lutte. Il faut toujours frapper la porte, même si on n'a pas l'espérance que ça va marcher, mais il faut toujours frapper la porte. Il faut toujours frapper la porte parce qu'avec l'appui de ces instances, peut-être que ça pourrait quand même influencer les décisions, ça pourrait faire bouger la chose. Mais dans notre itinéraire, dans nos démarches, nous avons contacté toutes les personnes que nous devrions contacter. Nous avons contacté la ville de Toronto, la province, les fédérales. Tout a été contacté afin de voir ce qu'on pouvait faire en faveur de ces personnes qui sont en situation extrêmement difficile aux États-Unis.
Ouais, moi, je pense qu'il faut organiser une marche pour protester contre le silence radio de ces paliers de gouvernement. Vous ne croyez pas?
Mais c'est quand même une possibilité. Nous avons réfléchi aussi à ce sujet. Donc, comme on avait envoyé la lettre à la ministre, et puis quelqu'un de son bureau a appelé pour dire qu'il n'a pas reçu la lettre, parce qu'il y a un article qui a été écrit, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est TFO qui a écrit cet article,
oui.
Mais ils ont vu la tête. Donc, ils nous ont contactés pour nous aviser qu'ils n'ont pas reçu la lettre. Donc, nous avons envoyé une nouvelle copie. Donc, on attend peut-être que la semaine prochaine, il pourrait avoir une réponse. Et puis, je vous tiendrai au courant de ça.
Oui, ça nous intéresse beaucoup, hein, vous le savez. Alors, quelle est la position des Haïtiens en général de la région de Toronto ou en Ontario? Je sais qu'à Ottawa, il y a une forte contingente haïtienne, à Montréal aussi. Est-ce que les gens sont inquiets? Parce que sans doute, ces gens qui sont aux États-Unis ont de la famille ou des parents qui vivent ici au Canada, n'est-ce pas?
Mais en fait, en tant que communauté, on était disposé. Dans nos rencontres, on avait discuté, on était prêt à ouvrir deux centres d'accueil pour accueillir ces immigrants une fois qu'ils seront arrivés à Toronto, par exemple, établir des programmes d'orientation, des programmes d'intégration. Donc, c'est pas un mouvement isolé par un groupe ou par une personne. Il y a la Maison d'Haïti qui s'implique, il y a CAI Créole, il y a la Coalition Créole, il y a la communauté haïtienne unie de l'Ontario, il y a FCASO, il y a toute une équipe avec qui nous travaillons ensemble pour cette cause. Donc, une fois que ces personnes seront arrivées à Toronto ou en Ontario, donc on avait demandé au gouvernement, par exemple, et puis de nous aider dans ces programmes. Mais comme j'avais dit, pour présenter une demande d'asile au Canada, pour arriver ici de façon légale, de façon régulière, donc, il va falloir avoir un parent immédiat, que ce soit un frère, une sœur, ou pour pouvoir présenter la demande. Donc, si vous avez, par exemple, ces personnes qui se sont dirigées vers le Québec, ce sont des personnes qui n'ont pas de parents immédiats au Canada. Donc, quand on n'a pas de parents immédiats, on ne peut pas présenter dans un port d'entrée pour présenter une demande pour venir au Canada. Donc, on avait enregistré, par exemple, plusieurs de ces cas, des personnes qui se sont présentées, que ce soit à Fort Thierry, à Windsor, pour présenter une demande. Donc, une fois que ces personnes n'ont pas de parents, ils sont refoulés au sol américain, j'étais en prison et puis déportés vers Haïti. Donc, ces personnes ne veulent pas tenter leur chance.
Oui, oui.
C'est ça que nous voulons que le gouvernement fasse. Par exemple, si on peut laisser ces personnes venir de façon légale, même si la personne n'a pas un parent immédiat ici, la personne peut présenter dans un port d'entrée, puis présenter une demande et puis entrer au sol canadien.
Ouais.
Le gouvernement avait fait ça en 2004, en 2006, en 2007. Donc, on n'avait pas besoin d'un parent pour présenter une demande d'asile. Donc, on peut juste présenter et puis le gouvernement vous laisse entrer après l'analyse de votre dossier. Mais maintenant, c'est totalement différent.
Bon.
Si on n'a pas un parent au Canada, on ne peut pas présenter une demande d'asile.
Alors, je pense que nous allons suivre ce dossier de très près. D'ailleurs, je remercie beaucoup hashtag ONFR de TFO qui suit ce dossier pour nous. Alors, tenez-nous au courant et si on peut faire quoi que ce soit, l'antenne est à vous. Je rappelle que vous êtes de la Fondation Sylvanie Lindor. En deux mots, la mission de votre fondation, en deux mots, rapidement, s'il vous plaît.
Mais en fait, la mission de ma fondation, c'est de travailler avec les jeunes d'origine francophone, les jeunes noirs en particulier. Parce qu'à Toronto, les francophones sont laissés derrière. Par exemple, quand on parle de nouveaux arrivants, on ne fait pas mention des jeunes francophones.
Mm-hmm.
Et par exemple, quelqu'un qui vit à Etobicoke, un jeune qui vit à Scarborough, donc, ce jeune ne peut pas courir des kilomètres pour aller à centre-ville pour rencontrer quelqu'un qui travaille au centre francophone. Donc, à Etobicoke, il n'y a pas de service en français pour les francophones. Il y avait un sondage qui a été réalisé récemment par Rifle Salvero, cet organisme qui s'occupe de la santé mentale des immigrants francophones. Mm-hmm. Donc, la communauté francophone d'Etobicoke est une communauté abandonnée, est une communauté oubliée à elle-même. Donc, l'objectif de la fondation, c'est surtout de travailler avec ces jeunes francophones à travers des programmes, par exemple, comme le football avant et après l'école, juste pour les aider à intégrer à Toronto. Oui. C'est ça l'objectif de la fondation.
Écoutez, il faut continuer à parler de ces défis de votre communauté à l'antenne. Et d'ailleurs, nous sommes très heureux de vous accueillir comme nouveau membre lors de notre campagne de cette année. On va continuer à travailler avec vous. Comme je vous l'ai dit, les portes de notre studio sont grandes ouvertes. Et quand vous nous appelez, on sait comment vous répondre et on le fait, même si on n'a pas de réponse, mais au moins, on vous répond. J'espère que les gens du gouvernement qui nous écoutent répondent, au moins vous donnent des indices, s'ils ont reçu la lettre, s'ils n'ont pas reçu la lettre, s'ils sont pour, s'ils sont contre, ou encore quelles sont les stratégies à mettre sur pied. Mais je trouve que silence radio ne va pas régler ce problème de dialogue entre vous et les instances, les paliers du gouvernement. Alors j'espère que le message est passé.
Mais c'est ça, si le gouvernement reste dans le silence, c'est qu'on va voir encore ce qui s'est passé en automne dernier. Donc, ces personnes vont se présenter à Saint-Bernard-de-la-Colle, mais notre inquiétude, c'est l'hiver canadien.
Exactement.
C'est un hiver assez froid.
Oui.
Donc, ces personnes, des familles, puis est-ce qu'ils vont se présenter là-bas de façon irrégulière juste pour demander une porte d'entrée au Canada? Donc, c'est pour ça que nous demandons au gouvernement, par exemple, d'établir, d'élaborer un programme qui pourrait faciliter ces personnes. Parce que, par exemple, ces personnes sont des professionnels, des infirmières, des médecins, donc les laisser venir au Canada.
Oui.
Donc, lancé au gouvernement.
Votre numéro de téléphone ou un numéro où les gens peuvent vous contacter si jamais ils ont des questions?
Mais en fait, mon numéro de téléphone, c'est le 416-892-2686. Ça, c'est le numéro de la fondation où les gens peuvent aussi nous visiter sur www.fsllindor.ca.
Très bien.
Donc,
86...
les informations sont là, les lettres, les démarches que nous avons en repris.
416-892-2686. Je vous remercie et bon courage, cher ami. Amiclé Fontaine, président, directeur, exécutif de la Fondation Sylvanie Lindor à Toronto. Bien le bonjour à tout le monde et à très bientôt.
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci aussi à toutes les institutions qui nous supportent.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Snyder, je ne sais pas la jaune, ça qui vient de se mettre à la son foule molette.
Qui m'a gâté, rêver ma chaîne bolette ça. Moi, tu me parles de ma cause, ne pas supposer rentrer.
RFI, toute la diversité du monde.
Aujourd'hui, le 11 novembre, à la 11e heure, nous prenons un instant pour rendre hommage aux soldats tombés au combat pour le Canada. En ce jour du souvenir, rappelons-nous le courage de nos vétérans canadiens et de l'ampleur de leurs sacrifices. Nous vous offrons donc le poème « Au champ d'honneur », adaptation française d'In Flanders Field, de John McRae.
Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur.
Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et oui, on le surnomme le petit prince de l'électro. Il a 17 ans seulement et connaît déjà un succès monstre. Mehdi Benjouloun, alias Petit Biscuit, qui était à Toronto récemment, a débuté sa tournée nord-américaine à guichet fermé. Et oui, il se produit un peu partout à travers le pays, l'Amérique du Nord, New York. Il est à New York, à Montréal et Toronto. Il s'est fait connaître grâce aux plateformes de musique en ligne. Son titre le plus populaire, la chanson Sunset Lover, que vous entendez en ce moment, a dépassé les 30 millions d'écoutes sur YouTube et les 150 millions d'écoutes sur Spotify. Et dans la dernière année, il a fait la tournée du Zénith en France et s'est produit dans plusieurs grands festivals devant des milliers de personnes. Sur son plus récent extrait, l'excellent Iceland, on retrouve de multiples instruments et des voix non distinctes comme sur Sunset Lover. Et à ne pas me rater, madame, monsieur, dans la deuxième heure, nous allons parler avec Édouard Landry, qui façonne à travers ses chansons un univers folk aux accents pop, reggae ou rock. Il est né originaire de Sudbury, en Ontario. Il lance son troisième album, à ne pas rater. Julien Clerc rencontre avec ce grand artiste français qui lance son dernier album, À nos amours, pour célébrer ses 50 ans dans le monde de la chanson française. Et aussi, nous allons faire un détour en Tunisie, un an après Donald Trump. Il y en a beaucoup, beaucoup à parler, à ne pas rater. Si jamais vous avez des questions ou encore vous voulez réagir à notre émission, les sujets traités aujourd'hui, c'est le 86-946-7000. Et nous attendons, bien sûr, vos dons, votre contribution pour notre prochaine campagne d'adhésion qui démarre aujourd'hui. 86 946 7000.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
We at CIUT 89.5 FM really like gifts, especially ones that give back. Our annual fall membership drive is November 13th and 19th. Donate now for your chance to win tickets to see Dana Crawl and Bruce Coburn, plus many more fun prizes. Visit www.ciut.fm for more details.
Worker-owned by Toronto Cyclists for over 20 years, Urbane Cyclists is your destination for all types of bicycle service, supplies, and accessories. Students and CIUT members save 10%. Our house brand, Urbanite Bikes, start at $569 for the Lakeshore Single Speed and $795 for our amazing Market or Junction Hybrids. Check UrbaneCyclists.com for the latest deals and get free shipping, same-day courier delivery, or in-store pickup from our online store. Visit us at 280 College Street, just west of Spadina, or at UrbaneCyclist.com. Some conditions apply.
CIUT 89.5 FM, bringing you the sound of your city for 30 years.
Adrien Delgrange.
L'armée de Bachar al-Assad a reculé ce samedi face au groupe État islamique. Les djihadistes ont repris aux forces du régime syrien le contrôle total de Boukamal. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Boukamal est une ville située à l'est de la Syrie, à proximité de la frontière irakienne. Pendant ce temps-là, côté irakien, plusieurs charniers renfermant pas moins de 400 corps ont été découverts près d'Aouija, un bastion djihadiste repris au groupe État islamique début octobre. C'est ce qu'annonce le gouverneur de la province de Kirkouk. Charnier mise au jour sur la base militaire d'Al-Bakara, située à 3 km au sud-ouest d'Aouija. Pour aider financièrement à la force G5 Sahel qui lutte contre des groupes extrémistes, le président français Emmanuel Macron a demandé à l'Arabie Saoudite une somme d'environ 100 millions de dollars. La France épaule l'initiative des pays du G5 Sahel qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Pourquoi le premier ministre libanais Saad Hariri n'est toujours pas revenu au Liban depuis sa démission annoncée il y a une semaine? Le président libanais Michel Aoun a appelé l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour éclaircir les raisons qui entravent le retour au Liban du Premier ministre. Michel Aoun pense avoir même une explication et se demande si Saad Hariri n'a pas été enlevé. En France, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a mis en garde les Républicains contre le risque de voir le parti se transformer en une secte. Laurent Wauquiez, favori pour prendre la présidence du parti Les Républicains en décembre, a été très critiqué par ses concurrents dans les derniers jours pour ses positions droitières. Celui qui ne rassemble pas, qui pense qu'une famille politique c'est une secte, ne peut pas défendre ses convictions, a dit hier Nicolas Sarkozy dans un discours qu'il a prononcé à Nancy. Un mot de sport à présent. Depuis la Coupe du Monde en France en 1998, le Maroc n'avait plus goûté à une compétition intercontinentale. Et bien 20 ans plus tard, les Lions de l'Atlas retrouvent la plus grande des compétitions grâce à sa victoire hier soir contre la Côte d'Ivoire 2-0 à Abidjan. La Tunisie a également validé sa participation au Mondial russe grâce au match nul réussi en Libye. Rugby, la France n'a pas fait le poids hier soir contre les Néo-Zélandais. Les Bleus ont perdu 38-18 face aux All Blacks. Et puis un mot de cinéma, la réalisatrice française Agnès Varda va recevoir dans le week-end à Los Angeles un Oscar d'honneur, auteur de nombreux documentaires et longs métrages. On ignore souvent la face californienne de cette réalisatrice française qui débarqua en 1967 à Los Angeles avec son mari Jacques Demy et y resta 2 ans.
La Radio Mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
un électorat de Trump qui n'est pas rationnel. Alors, la rationalité, elle est très simple à trouver. Les années...
Et oui, Donald Trump, un an après, il y a un an, les Américains se réveillaient sous le choc de la victoire de Donald Trump. Aujourd'hui, face à un électorat majoritairement hostile, le président compte sur sa base. Les conditions d'un rebond démocrate sont là, mais les risques abondent. Juste après l'élection, les électeurs semblaient disposés à donner une chance à leur nouveau leader, mais quand il est devenu clair que la présidence n'allait pas changer la personnalité de Donald Trump, ils ont déchanté. Si quelques sondages ont été favorables à Trump tout au début, ses taux d'approbation croupissent depuis des mois et des mois sous les 40%. Et oui, et il bat tous les records d'impopularité pour un président dans sa première année. La désapprobation est forte dans tous les domaines, y compris l'économie, malgré une croissance vigoureuse de l'emploi et des indices boursiers. À moins que Trump ne parvienne à révoquer la loi de la gravité politique et l'économie ralentit, ou si l'affaire russe explose... Ses appuis pourraient s'effronter, madame, monsieur. Eh oui. Bref, les Américains sont extraordinairement déçus de leur président et les chances qu'une majorité d'entre eux se convertissent au Trumpisme sont faibles. Pourtant, certains sondages montrent que si c'était à refaire, Donald Trump gagnerait probablement encore contre Hillary Clinton. Ça ne veut pas dire grand-chose, sinon que les adversaires de Clinton la détestent autant qu'avant et que les autres lui reprochent sa défaite. En fait, la page est tournée, même si Trump verra probablement toujours son ex-adversaire dans sa soupe, il faut regarder en avant. Les républicains qui feront face à l'électorat en 2018 doivent choisir entre s'atteler à la locomotive Trump ou prendre leur distance. Mardi, en Virginie, le candidat au poste du gouverneur L. Gillespie a embrassé le Trumpisme et il a été défait par une marge bien au-delà des attentes. Sa campagne trumpiste a davantage fouetté ses opposants que mobiliser ses sympathisants potentiels. En 2018, les républicains auront donc le choix entre se distancer de Trump ou risquer la fronde de sa base, ou s'associer à lui et stimuler l'ardeur des démocrates. C'est ce que les Américains appellent un catch-22. Pile, on perd, face, l'autre gagne. Il n'y en aura pas de facile non plus pour le parti adverse. L'avance des démocrates dans les intentions de vote en vue de 2018 met le Congrès à leur portée, mais la pente à remonter est abrupte. Depuis novembre 2016, l'électorat démocrate s'est déplacé significativement vers la gauche en réaction à Trump. Les candidats démocrates pourraient en profiter pour présenter un programme innovant qui stimulerait leurs militants et ferait oublier l'image entartré de l'establishment du parti qui avait plombé la campagne Clinton. Par contre, si les démocrates poussent trop à gauche, surtout sur les enjeux culturels sensibles, ils risquent de donner l'occasion aux républicains de rallier les modérés par une campagne négative. Retour sur une année de présidence américaine sous le signe de Donald Trump à travers le regard de sept intellectuels passés par l'antenne de France Culture: Emmanuel Todd, Soufiane Al-Zaba, Romain Huret, Pierre Mélandry, Anne Dessine, Jean-Paul Rollert et Sylvie Laurent. À vous.
On a cette vision d'un électorat de Trump qui n'est pas rationnel. Alors, la rationalité, elle est très simple à trouver. Les années 1999-2013 ont été des années, je dirais, de dégradation du niveau de vie, des modes de vie, qui vont bien au-delà de ce qu'on sait d'habitude sur la montée des inégalités. Et la presse américaine était remplie toute l'année dernière d'analyses très sérieuses sur la hausse de la mortalité dans la population blanche de 45 à 54 ans. La fureur de l'électorat de Trump est en un certain sens une fureur rationnelle.
Je rappelle que Donald Trump, en 2016, n'est élu que grâce à 110 000 voix qui sont réparties essentiellement sur trois États, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, qui sont historiquement depuis plus de 20 ans des États démocrates. Et grâce aux voix de l'électorat plus col bleu, populaire, ouvrier, Donald Trump a chippé ses voix aux démocrates et a réussi à se faire élire à la Maison Blanche. Donc il lui faut cristalliser, cet électorat, le conserver avec sa tête branchée sur les questions de nationalisme économique qui sont devenues la chasse gardée du Parti républicain, pendant que le Parti démocrate s'égosille sur des questions raciales qui vont concerner un électorat qui est d'ores et déjà acquis pour le Parti démocrate. Donc il y a une vraie stratégie, effectivement, d'électoralisme derrière toutes les prises de position qui d'apparence sont très folles de Donald Trump.
We are going to make America great again, and great again for everyone. Everyone.
Je dirais simplement que l'élection de Trump, c'est vraiment la confirmation de la fin du siècle américain et de l'Amérique comme modèle. Depuis les années 70, il se passe quelque chose aux États-Unis qui est une remise en cause progressive de ce qu'a été l'Amérique des années de l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. On a, si vous voulez, cette formule qui est revenue sans cesse, « bring our country back », c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Amérique qui ne se reconnaissait plus dans l'Amérique.
Oui, il est certain que la mobilisation et les mouvements sociaux dans leur ensemble vont être la principale forme de résistance, puisqu'on voit que les institutions dont on pensait qu'elles seraient un système de digue face aux éventuels dommages que pourrait causer Donald Trump sur les principes démocratiques américains sont finalement assez fragiles. Et il faut donc compter, en particulier aux États-Unis, qui est un pays qui a assez peu de corps intermédiaires et dont l'identification partisane est un petit peu compliquée, il faut compter sur les mouvements sociaux. Et donc les femmes ont lancé ce mouvement donc pour le 21 janvier.
Pour Steve Bannon, il se définit souvent comme un trotskiste de droite. Les conservateurs aiment bien cette formule-là en disant qu'il y a une révolution qui est en cours, une révolution conservatrice qui est en cours, une révolution complètement inédite. Et les gens qui ont manifesté à Charlotteville le croient également. En tout cas, il y a l'idée d'un grand soir conservateur qui est très présent. Alors là, la présidence est compliquée. On a du mal à voir. Trump tient assez mal la barque et les mesures concrètes n'apparaissent pas. Mais en tout cas, il y a une dynamique idéologique très forte à la Maison Blanche autour de Steve Bannon, c'est certain.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Et on nous dit de plus en plus de ne pas faire attention à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va continuer à tweeter, il va continuer à utiliser des formules inacceptables dans des enceintes comme l'ONU, parler de Rocket Man, l'homme à la fusée, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Mais le principe de réalité, surtout en politique étrangère, prend le pas. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup critiqué l'OTAN, puis finalement, il s'est rendu compte que l'OTAN, c'était un petit peu utile. Il a terriblement critiqué l'ONU, et la semaine dernière, au discours à l'Assemblée générale de l'ONU, il a quand même vanté les valeurs de l'ONU. Il a dit, oui, mais enfin, bon, cette institution a du potentiel.
Je pense que c'est un peu comme avoir une maison pleine de termites. Au bout d'un jour, on ne va pas s'apercevoir que quelque chose a changé, et peut-être même pas au bout d'une semaine, mais au bout d'un mois, le toit commence à s'effondrer, et un an plus tard, on n'a plus de maison.
Du 13 au 19 novembre, CUT 89,5 FM est la seule, l'unique émission langue française à la radio de l'Université de Toronto, CUT FM, compte sur vous. Depuis 30 ans, Popourri Show vous fait voyager dans la francophonie des 5 continents. Popourri Show, c'est plus de 3000 invités depuis 30 ans. 40 partenaires clés, 20 collaborateurs, 200 bénévoles, des émissions sans frontières et en toute liberté. Alors, nous comptons sur vous pour poursuivre notre Mission à l'antenne. Écrivez-nous. Nous attendons votre contribution, vos commentaires, vos questions à potpourri@cut.fm ou encore contactez-nous en direct au 416 946 7000. Du 13 au 19 novembre, le son de votre ville, The Sound of Your City on CIUT 89.5 FM. Aidez-nous à garder l'antenne.
Suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Aujourd'hui, RFI Culture nous présente un des auteurs, compositeurs français très très connus dans le monde de la francophonie. Ça fait plus de 50 ans qu'il chante pour nous. Il fête justement ses 50 ans de carrière. Rencontre avec Julien Clerc pour la sortie de son nouvel album « À nos amours ». Je vous rappelle qu'il est né dans le 19e arrondissement à Paris, baignant dans les notes avec la semaine chez son père Paul, haut fonctionnaire à l'UNESCO à l'époque, et le week-end chez sa mère d'origine guadeloupéenne. Et celui qui s'appellera Julien en public apprend très tôt le piano et bien sûr français, Guadeloupe. Alors quel beau mélange. Julien Clerc sort pour ses 50 ans de carrière musicale un nouvel album de chansons d'amour accompagné, largement entouré par de nombreuses personnalités de la chanson. Il a construit l'album avec Calogero, Omanette, Vianney, Carla Bruni, ainsi que Brigitte Fontaine, qui ont écrit pour lui dans ce disque. Un hommage de toutes ces artistes à Julien Clerc, détendu face à ce parcours déjà accompli comme sur sa pochette. Reportage RFI Culture Paris.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
À nos amours, c'est un album de chansons entraînantes. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous laissez pas gagner par l'amorosité ambiante ?
Non, mais je fais mon métier. Je suis là pour essayer d'amener des petits moments de positivité. Je ne sais pas si on dit ça comme ça.
Sous un grand arbre, j'ai poussé une sorte de vieux marronnier.
Et il y a ce titre, Sous mon arbre, qui évoque une forme de sérénité, de bonheur d'avoir réussi à construire une famille, à faire des enfants.
Oui, oui, des paroles de Marie Bastide, oui. On se doute que c'est une famille recomposée.
Comme la vôtre.
Comme la mienne, oui.
Après 50 ans de carrière, vous êtes fier d'avoir réussi cette vie
privée
aussi ?
Ah oui, certainement. La vie privée a été très importante aussi.
Il est question d'amour, de famille, de fratrie aussi dans On attendait Noël. C'est important pour vous, pareil, la fratrie qui est aussi née dans une famille
nombreuse.
Recomposée.
Recomposée et nombreuse. On était 6 et j'étais l'aîné. Cette famille nombreuse qui n'avait rien à voir avec le monde artistique, rien du tout. Si ce n'est que la musique était présente dans les deux maisons, grâce aux deux femmes du foyer, qui étaient mes deux mères, si vous voulez. Ma maman, qui adorait le jazz, la chanson, et puis ma belle-mère, qui adorait la musique classique, et qui m'a mis au piano très petit.
Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel, et croire au Père Noël.
Votre mère, à vous, elle était moitié guadeloupéenne. Mm-hmm. Et sur cet album, il y a un morceau écrit par Marc Lavoine,
oui,
en hommage à Aimé Césaire.
Moi, mon grand-père était antillais et communiste, comme Aimé Césaire. Et donc, cette chanson, je suis fier de la chanter parce que dès tout petit, j'ai été intéressé, on va dire, par le destin de l'homme noir, et en particulier de l'homme noir des Antilles.
Si je dis vous, à toi que j'aime, pardonnez-moi, ma belle amie, je ne sais pas t'écrire de poème, à vous que j'aime, à la folie, je ne tutoie que tes dentelles.
Comme toujours, vous composez la musique et vous,
oui,
laissez à des auteurs le soin,
oui,
d'écrire les textes. Pourquoi?
Oui. Eh ben parce que je ne suis pas foutu de les écrire. Et pourtant, je ne suis pas fils de littéraire pour rien.
Votre père était haut fonctionnaire à l'UNESCO.
Oui, mais avant, il avait été normalien, surtout, et prof de français, latin, grec. Hein, bon. Et donc, il avait cherché très tôt à m'inculquer ce goût de la poésie, si vous voulez. Et j'ai été heureux après de pouvoir revenir dans ses traces parce que toute ma vie, j'ai cherché des auteurs qui m'écrivent des textes que je puisse mettre en musique.
Parmi ces auteurs, pour ce nouvel album, il y a des auteurs de générations et de styles très différents. Ça va de Marc Lavoine à Brigitte Fontaine, en passant par les amis de longue date, Maxime Le Forestier, Carla Bruni, ou encore de jeunes plumes comme Vianney.
Oui, au début, je regrettais de ne pas tout écrire, comme des gens que j'admirais, Brel, Brassens, etc., puis plus tard même Goldman. Bon. Et puis après, j'ai compris que, en fait, ça avait été vraisemblablement une clé de survie dans mon métier, de n'écrire que la musique. Parce que je crois que d'écrire des musiques sur des styles différents, des gens qui faisaient sonner les mots différemment, je pense que ça m'a prolongé musicalement.
Ni les attraits des plus aimables argentines, ni les courses à cheval dans la pampa, n'ont le pouvoir de distraire de son spleen le consul général de France à La Plata.
Alors musicalement justement, c'est vous qui composez, avec, si j'ai bien compris, quasiment depuis 50 ans, toujours le même piano.
Oui.
Il,
oui,
vous a suivi partout.
Et la même attitude par rapport à la musique. J'ai toujours aimé faire un peu comme un artisan mes chansons à mon piano. Ça laisse plus de place à l'imagination quand vous avez juste votre voix et un piano. Après, vous faites un deuxième travail, quel travail de production, donc le travail d'habiller cette musique que vous avez écrite.
Et c'est pour ça que vous êtes allé voir Calogero, par exemple, avec votre maquette piano-voix.
Oui.
Vous avez passé une audition.
Oui, ah bah complètement.
Bien que vous ayez 50 ans de carrière derrière vous.
Mais oui, mais c'est bien de passer des auditions. Il ne faut pas être sûr de soi.
C'est votre 26e album
24,
studio.
Je crois.
La panne d'inspiration, vous ne connaissez pas?
Il y a eu des crues qui étaient meilleures que d'autres. Mais je pense que l'attitude est toujours la même qu'à l'âge de 20 ans. Ça a toujours été un jeu d'inventer de la musique. Et écoutez, j'ai de la chance. C'est encore ça. Je suis encore suffisamment frais pour, quand je me mets derrière un piano, m'amuser à inventer des mélodies.
Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi.
Le premier tube, c'était en 1968, en mai, La Cavalerie, vous aviez 21 ans. À l'époque, vous en rêviez depuis longtemps de faire une carrière dans la chanson?
À partir du moment où, je pense, deux ou trois ans avant, j'ai découvert sur le piano de la maison, finalement, à Bourg-la-Reine, que j'étais capable d'inventer de la musique, je pense que ça a été ça l'élément déclencheur.
Vous vous apprêtez à partir en tournée pendant une année dans toute la France. Qu'est-ce que vous en attendez de cette tournée?
Ah bah tout, plus que jamais un échange d'émotions. Je suis une génération où on était dressé très tôt au fait de partir sur la route et de chanter. La scène, c'est pas un accident dans une carrière. Ça fait partie intégrante, c'était même le but, chanter sur scène. Moi j'aime bien, comme on l'a entendu dire sur Barbara, j'aime bien arriver tôt, être tôt dans ma loge. Et puis après je vais à l'hôtel, donc c'est une vie assez solitaire. Ça l'était moins évidemment quand on avait 20 ou 30 ans, mais là ça l'est beaucoup devenu. Donc la récompense de la journée, c'est ces 2 heures passées avec les gens, en essayant de leur donner le meilleur de soi-même et de ce pourquoi ils sont venus. Parce que quand vous chantez depuis longtemps, vous avez en face des gens qui viennent à un rendez-vous avec leur propre vie, vous comprenez.
Parce que des morceaux ont marqué
leur
vie.
Voilà. Donc ça n'a pas de prix.
Merci Julien Clerc.
Des beaux jours,
Mon Dieu, qu'il passe vite, et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire? Et qu'un jour, on s'aime, etc. La 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 la. Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs. N'oublie pas.
Quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI.
RFI.
RFI.
RFI.
RFI.
RFI, la radio du monde.
Le 11 novembre, qu'est-ce que c'est ? Cette date marque l'armistice, qui veut dire la fin de la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu entre 1914 et 1918. Probablement du temps de ton arrière-arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère, ce qui veut dire les papis et mamie de tes grands-parents. Ça fait longtemps, hein? Eh bien, aujourd'hui encore, on se souvient de ce 11 novembre. D'ailleurs, je parie que tu as congé ce jour-là et que tes parents ne travaillent pas non plus. En Angleterre, tout le monde porte un coquelicot en carton à sa boutonnière. Car naturellement, il n'y a plus de fleurs dans les champs en novembre. Et partout dans les rues, on peut les acheter. Même les bus sont décorés avec des coquelicots. Et t'as vu, moi aussi j'en ai un. Je me le suis fait moi-même. C'est joli mon coquelicot, non? Alors, pourquoi un coquelicot? Eh bien, c'est à cause d'un poème qui s'appelle « Dans les champs de Flandre » et qui a été écrit par le lieutenant-colonel Macré. Là-bas dans ce champ, beaucoup de soldats ont été enterrés. Et comme par magie, des milliers de coquelicots ont poussé autour des tombes des soldats. La fleur rouge, donc, c'est le symbole du sang versé par les soldats qui se sont battus pour leur pays. Alors, voilà une photo de la cérémonie. Et on y voit un petit garçon qui porte une couronne de cliquot en carton qu'il va mettre au pied de la statue du soldat inconnu. Ça veut dire que c'est pour tous les soldats, en souvenir de ce jour du 11 novembre, qui s'appelle aussi la journée du souvenir. Voilà, à la prochaine.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, mesdames, messieurs, nous avons 30 minutes. Vous pouvez toujours nous rejoindre en direct si la ligne est libre, parce que ça ne cesse de déroger. 86 9 46 7000. Je voulais aussi poser la question pour voir si vous connaissez la réponse. Selon vous, est-ce que le Vietnam est un membre actif de la francophonie? Hein? Appelez-nous, 86 9 46 7000. De l'autre côté, on me dit que c'est non. Je vous donnerai la réponse avant la fin de l'émission. 86 9 46 7000 ou encore potpourri @cut.fm. J'ai un beau t-shirt 30e anniversaire de notre émission à vous remettre si vous me donnez la bonne réponse. Dans un instant, une première, et j'espère que c'est pas la dernière, notre ami artiste originaire de Sudbury, Édouard Landry, lance son nouvel album L'Escalade. Il est avec nous en direct de Sudbury. Voici un extrait de son album L'Escalade, loin de Montréal.
Sur le Mont Royal, c'est moi qui t'accompagne, aussi loin de Montréal.
J'aime bien. Alors, je vous rappelle que notre artiste invité est originaire de Sudbury, le nord de l'Ontario. Il façonne à travers ses chansons un univers folk aux accents pop, reggae ou rock, ou aux mélodies accrocheuses. Son sens de la mélodie et son aisance à naviguer à travers les styles musicaux séduisent. Il est nominé dans la catégorie meilleur interprète masculin au Gala des Prix Tri d'Or 2017 et son album Pomme Plastique 2, nominé meilleur album pour un artiste francophone au prix de musique et de film du Nord de l'Ontario en 2017. Il lance un premier album solo en 2015, Pomme Plastique, inspiré par la ville de New York, The Big Apple. Fasciné par les voyages et passionné par la découverte de nouvelles villes, c'est la route vers Chicago qui l'amène à un second opus, Pomme Plastique 2, lancé en mars 2016. Un troisième album, L'Escalade, s'annonce pour le 17 novembre 2017 et nous l'avons en primeur, madame, monsieur, en direct de Sudbury dans un instant, Édouard Landry. Et oui, il roule sa bosse, hein, comme on dit. Bonjour Édouard.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Quel temps fait-il dans le nord de la province de l'Ontario?
Il fait froid, il y a de la neige et puis je suis présentement sur la route. Je suis rendu à Mattawa puis je m'en vais vers Ottawa aujourd'hui.
Oui, Mattawa. Que j'aime bien ce petit village.
Oui.
Et il y a et ce que les gens ne savent pas, surtout les nouveaux arrivants, mais même des gens qui sont nés au Canada ou en Ontario, à Toronto. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup à découvrir dans le nord de l'Ontario. Ce sont des petits villages, des familles, les gens se connaissent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment avez-vous fait pour vous lancer dans le monde musical?
Ben, c'est comme vous l'avez dit, c'est des familles, tout le monde se connaît, c'est souvent des familles musicaux. C'est ça, on s'encourage, on lance nos projets, on joue sur des différents projets, et puis ça met le vent des voiles, et c'est ça, il y a un très beau réseau ici.
Oui, et d'ailleurs, c'est une façon aussi de survivre sa francophonie, en chantant, en jouant, et en créant, parce que ce qu'il faut rappeler aux gens, vous avez une autre vie. Vous ne faites pas que chanter à 100% à plein temps, n'est-ce pas?
Non, je suis urbaniste avec la ville du Grand Sudbury.
En effet, donc, vous êtes fonctionnaire.
Exactement, oui. Donc, je mets ma cravate le jour et puis je mets ma guitare le soir.
Oui. Alors, mais vous êtes un bon exemple parce que, comme je dis, vous avez roulé votre bosse, nominé dans plusieurs catégories. Alors, ce qui est intéressant, parlez-nous un petit peu de ce dernier album parce que c'est une façon pour vous de vous enlever le voile sur votre identité, sur votre origine et vous dévoiler au grand public, n'est-ce pas?
Oui, et puis c'est le dernier album, c'est vraiment une histoire de famille, c'est l'histoire du nid qui commence à se vider peu à peu et puis c'est un recul et puis c'est aussi un regard vers l'avenir.
Oui. Et dans votre entourage, est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que les gens vous regardent un peu d'un air un peu bizarre parce que vous devez avoir une vie un peu renfermée pour pouvoir y penser, écrire, composer et pratiquer, n'est-ce pas?
Je peux dire qu'au travail, c'est un peu le choc quand ils voient des choses passer. Puis on avait eu TFO est passé chez nous vendredi, donc oui. C'était... le réalisateur était là, cameraman aussi, puis il me suivait au bureau, donc ça faisait jaser.
Oui, vous êtes un peu le héros, l'acteur, le comédien du coin, quoi.
Un peu, mais on est une bonne gang à Sudbury. Oui. C'est une belle grande famille.
Alors, quelle est l'inspiration principale dans ce troisième album?
Je pense que l'inspiration principale, c'était le départ de mon fils aîné pour l'université. Mm-hmm. Et puis après ça, il y avait aussi Mario Jean, le comédien d'humoriste qui est passé chez nous. Puis il parlait de l'escalade qu'il avait fait en Afrique. Puis il avait fait le lien entre ça, le travail que ça prenait, puis l'énergie, avec l'élevage d'une famille. Mm-hmm. Et donc moi, ça m'avait resté. J'avais ces deux chansons-là, donc j'ai dit « Oh, il y a une histoire, là, il y a un concept. » Donc, je suis allé trouver d'autres chansons, écrire d'autres chansons, et puis pour faire le fil conducteur, et puis finalement, un album concept.
Avec tout le respect que je dois à ces nombreux franco-ontariens dans les quatre coins de la province qui essaient d'écrire, comme vous savez, il y a des graves problèmes de diffusion de la part des écrivains et de leurs œuvres, des maisons d'édition. Et moi, ce qui m'intéresse et qui attire notre attention ici à cette émission, c'est de donner la voix à des sans-voix, parce que des fois, les médias officiels n'ont pas le temps, ou c'est pas, ça fait pas partie de leur mission d'aller chercher ces pauvres pauvres gens qui n'ont pas toujours voix au chapitre, n'est-ce pas, à moins d'avoir remporté un prix ou quelque chose. Alors, moi, chapeau à tous ces gens qui font du beau travail, et surtout en vous écoutant, en écoutant vos albums précédents, il me semble qu'il y a du potentiel. Et quel est le secret? Est-ce que vous avez des stratégies pour diffuser vos musiques, vos chansons à l'extérieur de Sudbury, mais aussi de l'Ontario, pour que les chanteurs, les artistes franco-ontariens aient un peu leur voix au chapitre ailleurs au Canada et en Europe ou dans le monde de la francophonie?
Ben, c'est grandement apprécié que les radios jouent les chansons. Mmh. Moi, ma stratégie, c'est de faire... C'est une façon très simple de le dire, c'est de faire ce qui me plaît. Et puis, s'il y a d'autres qui embarquent, c'est très bien. Mais aussi, avec tout ça, mais c'est de savoir faire entrer du monde, puis faire toujours agrandir l'équipe, parce qu'il y a des outils qui sont là, il y a du monde qui spécialise en termes de... Si tu veux une publiciste, il y en a plein. Si tu veux... pour faire du pistage radio, il y a ça aussi, mais c'est aussi de peut-être sortir aussi de sa zone de confort pour laisser le monde entrer aussi, mais aussi se vendre un peu et puis continuer à produire, mais toujours avec personnellement, pour moi, de faire des choses qui me plaisent, ce que j'aime, puis s'il y a d'autres monde qui trippent là-dessus aussi, c'est très bien, puis c'est bonheur.
Notre invité, madame, monsieur, aujourd'hui en exclusivité, Édouard Landry, de la région de Sudbury, qui lance son troisième album, L'Escalade, qui sortira le 17 novembre, donc cette semaine, en plateau double, avec l'auteur, compositrice, interprète Cindy Douard, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Originaire de Timmins. Justement, on parle de Timmins ces jours-ci avec la conférence sur l'immigration francophone. Alors, donc, il y aura un concert organisé par la SLAG qui se déroulera au Moose Lodge de Sudbury. Je pense avoir déjà été là une fois, ça fait très longtemps.
Oui.
Alors, donc, parlez-nous un petit peu de l'ambiance, comment va se dérouler cette soirée?
Je pense que ça va être une soirée assez émotionnelle. Ça va être une salle pleine de mes proches, de famille. Ça va être un grand dévoilement pour moi. Je pense que aussi, c'est une histoire universelle, ce qu'on vit, et puis je pense que le monde va se reconnaître là-dedans. Mm. Puis après ça, le prochain matin, on quitte vers Ottawa, puis ensuite à Toronto le dimanche prochain.
Ah oui?
Donc on va être à The Dock on Queen, qui est à Leslieville, dans ce coin-là.
Ah oui?
L'auditoire torontois. On va être là en plateau double avec Amélie Lessing-Gilles.
À quelle heure?
À 19h.
Oui. Pouvez-vous m'envoyer tous les renseignements? On fera une petite pub pour vous cette semaine sur notre site.
Excellent.
Tous les détails et surtout Amélie Les Singes Bleus, on les connaît. Ce sont nos amis.
Et puis en passant, Amélie chante partout sur l'album. Elle joue le rôle de l'épouse. Donc ça pousse encore plus loin cette notion d'album concept. Ouais.
Écoutez, moi, ce que je vois, ce que je prévois dans ma boule de cristal, c'est que Édouard Landry doit faire une tournée mondiale.
Ben, merci beaucoup.
Donc,
je me le souhaite.
Reprenez une année sabbatique de votre poste. Vous direz à votre patron qu'un animateur de radio de Toronto m'a dit de prendre 6 mois, 1 an d'année sabbatique parce qu'il y a de l'avenir pour moi. J'ai une autre carrière qui m'attend.
Excellent. Ben, ils vont me dire oui tout de suite si l'animateur de Toronto me l'avait indiqué.
Écoutez, merci encore une fois. On va passer maintenant à un deuxième extrait de votre album L'effet miroir, qui est justement dans cet album intitulé L'escalade, qui sort le 17. Et je vous souhaite Maud Cambron, bonne chance. Et puis on se voit, j'espère, quand vous serez à Toronto la semaine prochaine.
Excellent, merci beaucoup.
Passez une bonne journée et bien le bonjour à tous ces gens qui font de la bonne publicité pour vous. Au revoir, merci. Tous vos partenaires, la famille de Sudbury. Ciao, au revoir.
Merci, salut, bonsoir, bonjour.
Smile.
Et oui, troisième album de Monsieur Landry, Édouard Landry, originaire de Sudbury, le 17 novembre, à ne pas rater la semaine prochaine. Il sera à Toronto pour le lancement avec Amélie Les Singes Bleus, si vous voulez y être. Être avec nous, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Et ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Et oui, là nous écoutons le petit prince de l'électro, mesdames, messieurs, Petit Biscuit. Son vrai nom, c'est Mehdi Benjelloun de Paris et fait une tournée nord-américaine, salle comble partout où il passe. J'adore sa musique. Écoutez. Jeunes, hein, ils sont vraiment talentueux. Merci beaucoup à Édouard Landry. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Et merci à ceux et celles qui nous appellent depuis 11 heures pour contribuer. Voilà, le message est passé. Je remercie beaucoup Michel Duvalcin de la région de Hamilton. Merci pour votre générosité, votre contribution. Ça fait plaisir. Et selon vous, est-ce que le Vietnam est un membre actif de la francophonie parce que notre cher Premier ministre Justin Trudeau, qui a été accueilli en rockstar, vous n'êtes pas seulement au Vietnam, mais aussi aujourd'hui en Manille, les Philippines. Eh oui, le Vietnam est bien de la famille francophone, de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous ne saviez pas, le Vietnam participe activement aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie. La présence de la langue française au Vietnam démarre au XVIIIe siècle, lorsque des explorateurs, des marchands français, commencèrent à voyager au large de la côte de l'Indochine. Le français fut la langue officielle du Vietnam depuis le début de la colonisation française jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à l'indépendance, actée par les accords de Genève, et garda son statut officiel de fait en République du Vietnam jusqu'à sa disparition en 1975. La communauté francophone du Vietnam est la plus grande des trois communautés francophones d'Asie du Sud-Est, qui comprend celle de Laos, du Cambodge. Le français est parlé par plus de 5% de la population et parfois utilisé en diplomatie et dans l'éducation et dans le milieu du travail. Par contre, la langue française est très fragile au Vietnam. Si le jeune asiatique se tourne vers l'anglais, c'est qu'il est devenu la principale langue du commerce, des relations internationales et de la communication au niveau mondial. Le français est pourtant le porte-étendard de valeurs fortes comme les droits de l'homme ou de laïcité. D'une manière très engagée de faire de l'humanitaire initié par les fameux French Doctors et d'une vision bien plus inclusive, parfois peu pragmatique, il est vrai, des relations entre les peuples. Voir notre langue reculer en Orient, c'est aussi voir la fin d'une ère dans laquelle nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité faisaient rêver et étaient érigées en modèle. Je connais personnellement des médecins, des infirmiers canadiens, québécois qui ont travaillé pendant la guerre au Vietnam et qui ont aussi parrainé plusieurs réfugiés vietnamiens. Vous savez, cette histoire de réfugiés, c'est pas récent, hein, les Syriens, les Haïtiens ou autres, mais notre monde, malheureusement, connaît la guerre depuis des siècles et des siècles, et il y a ce bouleversement démographique à travers la planète. Et heureusement qu'il y a des peuples, des pays comme le Canada, qui accueillent, facilitent l'accès à ces personnes perdues dans la guerre ou encore victimes de la guerre. Alors, beaucoup, beaucoup de familles au Québec, partout au Canada, ont accueilli dans les années 70 les réfugiés haïtiens, vietnamiens. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui continuent à œuvrer dans la langue de Molière, c'est-à-dire en français. Nous avons reçu une invitation de la part du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF, qui vous invite ses membres à participer à son assemblée générale annuelle le samedi 25 novembre de 11h à 12h30. Il me semble que c'est court comme temps, hein? 11h à 12h30, on peut faire une assemblée, je ne sais pas. Cela se déroulera au Collège Boréal, salle de conférence 3e étage. Vous pouvez vous inscrire comme nouveau membre ou en tant que participante en allant sur le site www.mofif.ca. Et là, vous allez avoir tous les renseignements et on vous donne jusqu'au 20 novembre, hein, pour vous inscrire. Vous pouvez aussi découvrir tous les documents de promotion pour les femmes immigrantes sur Facebook ou encore sur le site mofif.ca. Conférence du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, notre partenaire, vous invite à la conférence de Gaël Coastelec sur le thème « Inégalité, accès au diplôme du tertiaire en Europe » entre émergence d'un référentiel commun et régime d'inégalité. C'est prévu pour le mercredi 15 novembre de 17h à 18h à OISI, CREFO, Université de Toronto, 252 rue Bloor-Ouest. C'est au 12e étage. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou encore aller sur... téléphoner plutôt. Envoyer un courriel à valerie.dally@utoronto.ca. Voilà. Et quoi d'autre encore? Le prochain souper-conférence du Club Richelieu de Toronto, d'ailleurs, son président était à notre antenne la semaine dernière. Ce souper aura lieu le 15 novembre. Beaucoup de choses se passent le 15 novembre, mercredi prochain, au Ristorante. C'est un restaurant italien et on vous demande de vous inscrire au 416-728-1356. L'invitée conférencière est l'agente Tina Louise Trépanier, responsable de la liaison communautaire francophone au sein de la police de Toronto. Un film documentaire, The Cutting Factory, et la cinéaste Michelle Ozer, qui était aussi à l'antenne la semaine dernière. On vous invite à la première mondiale du Sponsor Lane sur TVO. C'est un documentaire qui retrace la vie des réfugiés syriens en Ontario. Alors, allez sur le site de TVO pour avoir tous les renseignements, mais la date à ne pas rater, mercredi 15 novembre à 21h, ainsi que les rediffusions samedi le 18 à 21h et dimanche 19 novembre à 23h. Sponsor Lane, qui raconte la vie d'une famille de réfugiés syriens accueillis au Canada, à Picton, en Ontario. Très émouvant. Et puis, quoi d'autre encore? Nous avons des amis qui nous écoutent, des maisons de casting, mais aussi si vous êtes à la recherche d'emploi. Alors, il y a plein de gens qui passent des messages ou qui veulent faire passer leur message. Alors là, on est en train de rechercher une famille francophone. Ne vous en faites pas, vous allez être rémunérés, $500 ou plus, pour des vidéos, des membres qui parlent français, des familles dans le Grand Toronto. Alors, Alors, si vous voulez avoir des renseignements, vous allez vous inscrire. Vous pouvez appeler notre ami Jesse Chip au 647-8301. Et elle fera un plaisir de répondre à vos appels. www.realpeoplecasting.com pour avoir tous les renseignements. Le Théâtre français de Toronto est fier de présenter la sixième édition de sa série à succès Les Inspirés, mise en scène par Chanda Gibson. La production originale Les Inspirés, 6 degrés de séparation, sera présentée au Berkeley Street Theatre. Du 1er au 9 décembre, nous avons des billets pour vous. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous nous appelez ou encore envoyez un message. Des billets gratuits grâce au Théâtre français de Toronto et José Durand-Lau. Voilà tout le temps qui m'est permis pour vous parler, madame, monsieur. DJ Devera, un grand merci. Jenny, Xavier, RFI Musique, Julien Claire, Ami Clé Fontaine, Édouard Landry. Et aussi merci à notre ami... Comment s'appelle-t-il encore? Monsieur Duvalsin, Michel Duvalsin, un grand merci. Et tous ceux et celles qui nous ont appelés, docteur Bouraoui, professeur Bouraoui, merci pour votre contribution et tant d'autres encore. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, une émission spéciale, levée de fonds, campagne d'adhésion de Popourichaud, CUTFM. Ciao.